Bonjour à mes auditeurs, bienvenue dans notre émission hebdomadaire sur les Pères de l'Église. Nous sommes en compagnie de Saint Jean Chrysostome qui commente pour nous la deuxième aux Corinthiens et nous reprenons son commentaire aujourd'hui à la 13e homélie. Voici le texte sur lequel démarre cette homélie, c'est le verset 11 du chapitre 6 de la deuxième aux Corinthiens. Saint Paul dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous, ô Corinthiens, notre cœur s'est dilaté. Vous n'êtes pas à l'étroit dans notre cœur, c'est dans les vôtres que vous êtes resserrés. » Rien de plus large que le cœur de Paul, avec l'ardeur brûlante d'un amant, il embrassait toutes les âmes pieuses sans se diviser, sans s'affaiblir. Son affection se portait tout entière sur chacun d'eux. Rien en cela de surprenant, puisque ce cœur de l'apôtre embrassait même les infidèles dans l'univers entier. Aussi ne dit-il pas « je vous aime », mais il s'exprime par image « notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est dilaté, nous vous avons tous dans notre cœur, et encore vous n'y êtes pas à l'étroit, vous y êtes au large. Celui que nous aimons se promène, pour ainsi dire, sans aucune crainte au fond de notre cœur. » C'est pourquoi l'apôtre dit « Vous n'êtes pas à l'étroit dans notre cœur, mais c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. » Il y a dans ces paroles un reproche qu'adoucit l'indulgence de saint Paul. Et c'est encore le propre de ceux qui aiment. Il ne dit pas « Vous ne m'aimez point, mais vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. » Il ne veut pas les reprendre trop durement. Si l'on veut savoir de quel amour il brûlait pour les fidèles, on n'a qu'à parcourir ses épîtres. « Vous n'êtes pas à l'étroit dans notre cœur, c'est dans vos propres cœurs que vous êtes à l'étroit. » Un objet suffit pour les remplir. Le nôtre contient notre ville entière et son peuple. Il ne dit pas « Vos cœurs ne peuvent nous contenir, mais vous avez des cœurs trop étroits. » C'est la même pensée qu'il exprime en termes adoucis pour ne point les blesser. Or, vous avez les mêmes récompenses que nous, c'est pourquoi, et je vous parle comme si vous étiez mes enfants, dilatez aussi vos cœurs. Verset 13. Il y a plus de mérite à aimer le premier qu'à payer de retour. L'amour fut-il égal de part et d'autre, la priorité suffit pour donner l'avantage. Mais je ne veux pas être trop exigeant, dit-il. Il me suffit pour vous aimer, pour vous chérir, que vous me témoigniez quelque bienveillance en retour de l'affection que je vous porte. Ensuite, pour leur montrer qu'ils y sont tenus, pour écarter tout soupçon de flatterie, il ajoute « Je vous parle comme si vous étiez mes enfants. » Qu'est-ce à dire « comme si vous étiez mes enfants » Il n'y a rien d'étonnant que, me regardant comme votre père, je veuille être aimé de vous. Quelle prudence, quelle modestie. Il ne rappelle ni les dangers qu'il a courus pour eux, ni les fatigues qu'il a supportées, ni la mort qui le menaçait chaque jour, et tant d'autres actes de dévouement, tant il craint de paraître orgueilleux. Mais s'il exige leur affection, c'est qu'il les aime lui-même le premier. « Je suis votre père, dit-il, parce que j'ai pour vous la plus vive affection. » Et ce n'est point son propre intérêt qu'il a en vue, mais uniquement le leur, aussi ajoute-t-il, « Ne tirez pas le même joug avec les infidèles. » Verset 14. Il ne dit pas « Ne vous mêlez point avec les infidèles. » Il emploie un terme plus énergique pour leur faire sentir qu'ils vont contre la justice. « Ne vous avilissez point. » Quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ce n'est point son affection qu'il compare avec l'affection de ces hommes qui corrompaient les Corinthiens, mais la noblesse des Corinthiens qu'il met en regard de l'ignominie de leurs corrupteurs. Ainsi donnait-il plus de force à son discours, ainsi relevait-il sa mission, ainsi se les conciliait-il de plus en plus. Car le langage que l'on tiendrait à un fils plein de mépris pour ses parents est tout entier livré à des scélérats qui le perdent. « Que fais-tu, mon enfant? Tu méprises ton père, tu lui préfères des scélérats, des hommes plongés dans les vices les plus honteux? Ne vois-tu pas combien tu l'emportes sur eux en probité et en noblesse? Ainsi on le tirera bien mieux de la société des pervers qu'en lui faisant l'éloge de son père. » C'est donc une belle comparaison que vient d'employer l'apôtre, mais voici quelque chose de plus admirable encore, une pensée bien propre à inspirer une terreur salutaire. D'abord, il procède par interrogation, c'est la forme que l'on donne aux pensées claires et évidentes. Ensuite, il emploie l'accumulation pour faire mieux ressortir son idée. Ce n'est pas un ou deux ou trois noms seulement, mais un plus grand nombre qu'il met en regard. Il personnifie les choses. D'un côté, il nous montre la vertu dans sa perfection, de l'autre, le vice dans toute sa laideur. Entre l'un et l'autre, il fait voir une différence infinie, en sorte que toute épreuve devient inutile. Quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel commerce entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quel partage entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Verset 15-16. Voyez-vous comme l'apôtre s'exprime nettement. N'y a-t-il pas là de quoi les détourner des hommes corrompus qui les obsèdent ? Il ne se sert pas du mot prévarication qui a plus de force pourtant que le mot iniquité. Il ne dit pas ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres, mais il oppose une chose à une autre, met en regard deux choses incompatibles, la lumière et les ténèbres. Il ne dit pas ceux qui appartiennent au Christ et ceux qui appartiennent au démon, mais il oppose le Christ à Bélial, et cette opposition est bien plus marquée. Le mot Bélial en hébreu signifie apostat. Qu'y a-t-il de commun entre le fidèle et l'infidèle ? Ce n'est plus seulement le vice qu'il attaque ou la vertu qu'il recommande, il met aussi les personnes en parallèle. Il ne dit pas « quelle société », mais « quel partage ». Il veut parler des récompenses. Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Voici le sens de ces paroles. Votre roi n'a rien de commun avec le démon. Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial ? Point de rapport non plus entre les choses elles-mêmes. Quel commerce entre la lumière et les ténèbres ? Donc, vous non plus, vous ne devez pas avoir de relation avec les infidèles. Il nomme d'abord le roi, puis les sujets, afin de les séparer plus complètement de leurs ennemis. Après avoir dit quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles, il les appelle le temple du Dieu vivant. Ce n'est pas une flatterie, il leur en donne immédiatement la preuve. Louer quelqu'un sans appuyer son éloge sur aucune preuve, cela ressemble à une flatterie. Quelle preuve l'apôtre leur donne-t-il donc à l'appui de cette parole ? J'habiterai en eux et je m'y promènerai. J'habiterai dans ces temples et je m'y promènerai. Marque éclatante de l'amour de Dieu pour eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Que direz-vous maintenant ? Vous portez Dieu au-dedans de vos âmes et vous courez à la suite des infidèles ? Oui, vous portez en vous le Seigneur qui n'a rien de commun avec eux. Êtes-vous excusable ? Songez donc à l'autre qui se promène, pour ainsi dire, dans vos âmes, qui y fait son séjour. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous de leur société, ne touchez point ceux qui est impur. « Et je vous recevrai, dit le Seigneur. » Verset 17-18. Il ne dit pas « Ne commettez point d'actions impures. » Il exige quelque chose de plus. « Ne touchez pas à ce qui est impur. N'en approchez point. » Quelles sont les impuretés de la chair ? C'est l'adultère, la fornication, l'incontinence. Et les impuretés de l'âme, ce sont les mauvaises pensées, les regards indécents, le souvenir des injures, les fourberies et le reste. L'apôtre veut que nous soyons purs et de corps et d'âme. Et voyez comme Dieu récompense la pureté. On est éloigné des méchants et réuni au Seigneur. Écoutez ce qui suit. Je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur. Ainsi le prophète annonçait bien longtemps à l'avance notre véritable grandeur, notre régénération par la grâce. Telles sont les promesses qui nous sont faites, mes bien-aimés. Quelles promesses ! Nous sommes les temples de Dieu, nous sommes ses fils et ses filles. Il est notre hôte, il se promène au-dedans de nous. Nous sommes son peuple, il est notre Dieu et notre Père. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. N'ayons point de contact avec ce qui est impur. Autrement, nous souillons notre corps. N'ayons point de contact avec ce qui souille l'âme. Autrement, notre âme devient impure. Il va plus loin et il ajoute « Achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu ». Il ne suffit pas en effet de n'avoir aucun contact avec l'impureté pour être pur. Si nous voulons être saints, il faut des efforts, de l'attention, de la prudence. Il a raison d'ajouter « dans la crainte de Dieu ». La pureté, en effet, peut être un effet non de la crainte de Dieu, mais de la vaine gloire. Mais ces paroles offrent encore un autre sens et font voir la manière dont se perfectionne la sainteté. Les passions peuvent bien vous tyranniser, mais si vous vous armez de la crainte de Dieu, vous briserez vite leur fureur. Par sainteté, l'apôtre n'entend pas seulement la pureté, mais aussi l'éclat d'une âme libre de tout péché. Celui-là est saint qui n'a rien à se reprocher. Vous serez donc saint si, non content de ne pas vous livrer à la débauche, vous repoussez l'avarice, l'envie, l'arrogance, la vaine gloire. Quatorzième homélie. Donnez-nous place dans votre cœur. Nous n'avons blessé personne, nous n'avons corrompu personne, nous n'avons circonvenu personne. Je ne le dis point pour vous condamner, nous venons de vous dire que vous êtes dans nos cœurs pour mourir avec nous et pour vivre avec nous. Chapitre 7, versets 2 et 3. C'est encore de son affection qu'il parle aux Corinthiens, et il veut tempérer par là ce qu'il y a de dur dans ses reproches. Il les a blâmés, il leur a reproché de ne pas l'aimer autant qu'il les aime, mais de s'éloigner de lui pour se joindre à des hommes corrompus. Ces reproches durs à entendre, il les tempère en disant « Donnez-nous place dans votre cœur, c'est-à-dire aimez-nous ». Ce qu'il demande est bien facile, et l'avantage en revient plutôt à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Et il ne dit pas « Aimez-moi », mais ce qui doit toucher davantage « Donnez-moi place ». Qui donc nous a chassés de vos cœurs? Qui donc nous en a bannis? Pourquoi sommes-nous à l'étroit dans vos âmes? Ce qu'il disait plus haut, vous êtes resserrés dans vos propres cœurs, il le dit ici en termes plus clairs, donnez-nous place. Et de la sorte, ils se concilient leur affection. Rien de plus propre à inspirer l'amour que de voir celui qui aime souhaiter d'être payé de retour. Nous n'avons blessé personne. Il ne passe point en revue ses bienfaits, il s'y prend d'une autre manière et s'est donné à son langage plus d'énergie, sans faire éprouver aucun sentiment pénible. Ce sont les faux apôtres qu'il a en vue quand il dit « Nous n'avons blessé personne, nous n'avons corrompu personne, nous n'avons circonvenu personne ». Que signifient ces mots « Nous n'avons corrompu personne » L'apôtre veut dire « Nous n'avons séduit personne ». Ailleurs, il dit « De peur que vos sentiments ne soient corrompus, de même qu'Ève fut trompée par le serpent ». Nous n'avons circonvenu personne, c'est-à-dire nous n'avons rien dérobé. Nous n'avons point tendu de piège. Il ne dit pas encore « Nous avons procuré tel et tel avantage ». Son langage est plus persuasif. « Nous avons blessé personne », dit-il. C'est comme s'il disait « Ne vous eussions-nous fait aucun bien, ce ne serait pas un motif de vous détourner de nous, car vous n'avez absolument rien à me reprocher ». Ces paroles, un peu incisives, il les adoucit encore. Mais il devait les prononcer, autrement il n'eût point agi sur leurs âmes. Et il devait les mitiger ensuite, car la blessure eût été trop profonde. Que dit-il donc? Ce n'est point pour vous condamner que je vous parle de la sorte. Et quelle preuve en donne-t-il? Je viens de vous dire que vous êtes dans notre cœur, à la mort, à la vie. N'est-ce point là une bien grande marque d'amour? Il le méprise, et cependant, c'est avec eux qu'il veut mourir et qu'il veut vivre. Vous n'êtes pas simplement dans notre cœur, mais vous y êtes de la manière que je viens de dire. On peut aimer et cependant fuir le danger. Ce n'est pas ainsi que nous vous aimons. Je vous parle avec une grande liberté. Ce n'est donc point pour vous condamner que je vous ai tenu ce langage, mais bien parce que j'ai confiance en vous. C'est la même pensée qu'il exprime ensuite. J'ai grand sujet de me glorifier de vous. Soyez sans inquiétude, je n'ai pas du tout l'intention de vous condamner. Je me complais en vous, je me glorifie à votre sujet. Seulement je veux votre bien et je souhaite de vous voir faire des progrès dans la vertu. Je suis rempli de consolation. De quelle consolation? C'est de vous qu'elle me vient. Vous vous êtes corrigé et vous m'avez consolé par vos œuvres. C'est le propre de celui qui aime de se plaindre de n'être pas assez aimé et de craindre d'aller trop loin dans ses reproches pour ne pas chagriner. C'est pourquoi l'apôtre dit « Je suis rempli de consolation, je surabonde de joie ». Car étant venu en Macédoine, nous n'avons eu aucune relâche selon la chair. Il vient de parler d'affliction. Il en fait voir maintenant la grandeur. Il la peint tout entière afin de faire voir aussi la grandeur des consolations et de la joie qu'ils lui ont procurées. Cette joie, en effet, a dû être bien vive pour dissiper une telle douleur. Mais nous avons toujours eu à souffrir. Comment cela? Combat au dehors, de la part des infidèles, frayeur au dedans. Car il craignait de voir les faibles dans la foi se laisser entraîner à l'erreur. Ce n'est pas seulement chez les Corinthiens que de telles séductions avaient lieu, mais encore partout ailleurs. Mais celui qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite. Le magnifique témoignage qu'il vient de leur rendre eût pu leur paraître une flatterie. Il prend à témoin Tite, son disciple, qui, revenant de Corinthe après l'envoi de la première épître, avait appris à l'apôtre le changement des Corinthiens. Il nous a rapporté vos désirs, vos pleurs, l'ardente affection que vous me portez. Verset 7. Voilà ce qui m'a fait tant de plaisir, ce qui m'a donné tant de consolation. Voyez-vous aussi comment il montre aux Corinthiens l'affection que Tite leur porte? Ce disciple regarde leur vertu, leur gloire comme sa propre consolation, et de retour auprès de l'apôtre, il s'en glorifie comme s'il s'agissait de ses propres vertus et de sa propre gloire. Quinzième homélie. Bien que je vous ai attristé par ma lettre, néanmoins je n'en suis point fâché, quoique je l'ai été auparavant. Chapitre 7, verset 8. Maintenant, il peut traiter les Corinthiens avec douceur, puisqu'ils sont revenus de leurs égarements. Il justifie donc la lettre qu'il leur a écrite et leur montre les avantages qu'ils en ont retirés. C'est ce qu'il avait déjà fait auparavant quand il leur disait « Du sein de mes tribulations et de mes angoisses, je vous ai écrit non pour vous contrister, mais pour vous faire connaître la vivacité de l'affection que je vous porte. » Il revient sur ce sujet et développe sa pensée. Il ne dit pas « Auparavant, je me repentais, mais aujourd'hui, je ne me repens plus. » Quelles sont donc ces expressions ?« Je ne me repens point maintenant, dit-il, quand même je me serais repenti. » Comme s'il disait « Quand même je vous aurais blâmé jusqu'à l'exagération, jusqu'à m'en repentir ensuite. À la vue des avantages qui en sont résultés, je ne puis plus avoir aucun repentir. » Ce n'est pas à dire que ces reproches fussent exagérés, ils s'expriment de la sorte pour mieux faire ensuite leur éloge. Après avoir dit « Je ne me repens point », il s'explique aussitôt et rappelle l'heureux succès de son épître. Il a raison d'ajouter encore, bien que pour quelque temps seulement. Le chagrin n'a duré qu'un instant, les avantages ne finiront point. La suite des idées exigeait que l'apôtre dit « Ma lettre vous a contristé un instant, mais cette tristesse a été suivie d'une joie et d'une utilité sans fin. » Il procède autrement toutefois, et afin d'exposer ses avantages, il fait de nouveau leur éloge et leur exprime toute sa sollicitude à leur égard. « Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été contristé, que me revient-il en effet de votre tristesse, mais de ce que ce chagrin vous a converti, de ce que ce chagrin vous a été avantageux. » Un père qui voit amputer son fils ne se réjouit certes point d'être témoin de ses souffrances, mais de la guérison qui en résultera. Ainsi en est-il de l'apôtre. Voyez comme il leur attribue à eux-mêmes l'affaire de leur conversion, et comme il impute à son épître la tristesse qu'ils ont ressentie. Ne leur dit-il pas en effet que sa lettre les a contristés pour quelque temps, et n'est-ce pas de leur vertu qu'il fait résulter les avantages produits par sa lettre ? Il ne dit pas en effet « Mon épître vous a converti, bien qu'en cela il lui dit vrai, mais bien de ce que cette tristesse vous a converti. Vous avez été contristés selon Dieu pour que vous n'éprouviez de dommage en quoi que ce fût. » Quelle ineffable prudence ! Si nous n'avions agi de la sorte, dit-il, nous vous aurions fait beaucoup de mal. Le bien, ce sont eux qui l'ont produit, le mal, lui seul, en eût été cause s'il eût gardé le silence. Puisque vous deviez vous convertir par suite de nos reproches, si nous avions négligé de vous les adresser, nous vous aurions été nuisibles et nous nous serions aussi fait tort à nous-mêmes. La tristesse qui est selon Dieu produit une pénitence qui, à son tour, produit le salut et l'affermit. Verset 10. C'est pourquoi, dit-il, bien que j'ai eu regret avant d'avoir aperçu les heureux résultats de ma démarche, maintenant je suis loin de m'en repentir. Tels sont les avantages de cette tristesse qui est selon Dieu. L'apôtre fait bien voir que toute tristesse n'est point fâcheuse et qu'il n'y a pas de tristesse fâcheuse que la tristesse selon le monde. Qu'est-ce à dire selon le monde ? S'attrister de la perte de ses biens, de la perte de sa gloire, de la mort de quelqu'un, c'est s'attrister selon le monde. La tristesse du siècle est donc aux yeux de l'apôtre cette tristesse qui nuit à ceux qui l'éprouvent. Il n'y a d'avantageux que le chagrin que l'on ressent d'avoir péché, et ce que nous venons de dire le montre assez. S'infliger de la perte de ses biens, est-ce les recouvrer ? Pleurer la mort de quelqu'un, est-ce un moyen de le ressusciter ? Se tourmenter d'une maladie, n'est-ce pas l'aggraver plutôt que de la guérir ? Mais déplorer ses péchés, c'est se procurer de grands avantages, c'est les consumer, c'est les faire disparaître. C'est au péché seulement que la tristesse peut porter remède. Là se borne son utilité. Partout ailleurs, elle est dangereuse. Cette tristesse que vous avez ressentie selon Dieu, quelle ardeur n'a-t-elle point produite en vous ? Verset 11. Oui, loin de vous porter à vous condamner vous-même, comme si vous vous fussiez attristé en vain, elle a redoublé votre zèle. Et voici maintenant les marques de ce progrès, elle a produit la justification. Sous-entendez, auprès de moi, l'indignation contre celui qui avait péché, la crainte. N'était-ce pas en effet une preuve de crainte que ce zèle et cette conversion si prompte ? Mais il ne veut pas qu'on lui reproche un mouvement de vaine gloire, et c'est pourquoi il modère aussitôt son langage en disant « Le désir pour moi, l'émulation pour Dieu, la vengeance, car vous vous êtes montrés les défenseurs de la loi de Dieu. » En toute chose en cette affaire, vous vous êtes montrés irrépréhensibles. Non seulement ils ne s'étaient eux-mêmes rendus coupables d'aucun crime, ce qui était manifeste, mais ils n'avaient en rien favorisé celui de l'incestueux. Dans sa première épître, il disait « Vous avez été enflés d'orgueil ». Dans celle-ci, il leur dit « Vous vous êtes même affranchis de ce soupçon, puisque non seulement vous n'avez point applaudi à ce crime, mais vous vous êtes même indigné contre son auteur. » Si donc je vous ai écrit, ce n'est ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a soufferte, verset 12. Les Corinthiens auraient pu dire « Pourquoi donc nous faire des reproches, puisque nous n'avons en rien participé au crime ?» C'est une objection qu'ils voulaient prévenir plus haut, et ils se frayaient pour ainsi dire le chemin en disant « Je ne me repens pas quand même j'aurais dû me repentir. Bien loin de me repentir maintenant de ce que je vous ai écrit, je m'en serais repenti autrefois plutôt que maintenant que vous vous montrez si ferme dans le bien. » Chers auditeurs, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. À bientôt. Au revoir.